Donc je vous parlais des signes plutôt que des preuves. Hein. Dieu nous parle toujours par signes, et un signe, c'est une invitation qui demande à être décryptée. L'arche, ben, c'est la figure de l'Église. Le sacrifice animal dans l'Ancien Testament, ce sera l'annonce prophétique du sacrifice du Christ. Hein, tout ce qui est esclavage, libération, expérience d'une terre et de la promesse, c'est le voyage chrétien qui nous mène par par la fidélité à l'Église, au salut. Et donc, les litanies de la Vierge, moi je les trouve comme étant une espèce de panneau indicateur, une espèce de facette, un petit peu dans un kaléidoscope, comme un tesson sur une mosaïque, où nous n'en avons que quelques-unes, évidemment, mais elles ne sont rien, elles disent quelque chose de l'ensemble des litanies de la Vierge. Pourquoi prier la Vierge Marie? Vous savez que certains de nos frères, chrétiens, les protestants notamment, pensent qu'on ne peut s'adresser qu'à Dieu seul et au Christ, parce que la prière de Marie ne se trouve pas dans l'Écriture. Cependant, l'Écriture a quand même au moins deux mentions qui nous montrent qu'on peut quand même s'adresser à Marie. D'abord dans l'Évangile selon saint Jean, les noces de Cana, on est au tout début de Jean, Jean 2, il est bien dit qu'elle intercède auprès de Jésus pour les besoins des hommes, et Jésus écoute cette demande particulière. Et puis, il y a aussi l'autre parole qu'on a, c'est à la toute fin de la saga Jésus, au Golgotha, hein, « Voici ton fils », dit Jésus à sa mère en lui présentant Jean. Et donc, en confiant Jean à Marie et Marie à Jean, Jésus confie symboliquement les disciples à une mère aux disciples. Et donc, Marie, elle va avoir une mission très, très particulière auprès des disciples que nous sommes, une mission précisément d'intercession. Donc, certes, deux textes ne disent pas explicitement qu'on peut prier Marie, mais en tout cas, ils donnent un fondement évangélique à la prière de Marie. Alors, quelle est la signification de la prière à Marie? Attention, prier Marie, c'est pas du même ordre que prier le Christ. Hein, parce qu'on dit bien, il faut vraiment qu'on ait dans notre tête, il n'y a qu'un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus qui a reçu tous les pouvoirs divins, et donc ça veut dire que Marie, elle n'a pas reçu ces pouvoirs-là, mais elle a quand même des pouvoirs qui lui sont propres, et elle peut simplement intercéder auprès de son fils pour tous les hommes, ce qu'elle fait à Cana. Alors maintenant, les litanies. Pourquoi prier des litanies adressées aux saints en général et à la Vierge Marie en particulier? Je voulais dire, on ne prie pas les saints comme s'ils étaient des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu Tout-Puissant. Mais en revanche, nous prions les saints parce qu'ils intercèdent auprès du Seigneur. Et prier un saint, c'est méditer sur un exemple, tenter d'imiter cet exemple avec les circonstances que nous traversons ici-bas, et puis nous laisser inspirer sur ce chemin de sanctification. Il y a deux préfaces qui sont très très belles dans le missel concernant la préface des saints. On nous dit, dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et que nous recevions une impérissable couronne de gloire. Voilà le cadre général qui nous permet d'entrer plus précisément sur la prière des saints, la prière d'une sainte en particulier, la prière de la Vierge Marie, avec cette forme très précise que sont les litanies. Alors les litanies, l'origine est peu assurée. Moi, j'ai trouvé plus de fondement plutôt du côté des moines irlandais. On est au 7e siècle, a priori, et c'est plutôt les moines missionnaires irlandais qui avaient ce qu'on appelait des invocations jaculatoires, c'est-à-dire des invocations très automatiques, très spontanées, très instinctives, très, très sincères, très machinales. Et elles étaient inscrites dans la mémoire assez directement parce qu'elles étaient, comme on disait, réputées qu'elles étaient suscitées par l'Esprit Saint. Et ça, invoquer un saint avec une invocation jaculatoire, bah c'était ça a connu un vif succès. Ça a été assez rapidement mis par écrit dans l'évangélisation du nord de l'Europe. Et très tôt, on a mis une forme fixe avec une invocation et un réponse. Saint Machin, priez pour nous. Saint Machin, ayez pitié de nous. Voilà. Et donc, peu à peu, on a codifié, vers le XIIe siècle, les litanies. Il y en a certaines qui étaient adressées à Dieu directement, d'autres à la Vierge, d'autres à tel ou tel saint. Et puis en même temps, on a ordonnancé les saints qui méritaient des litanies. Il y avait des saints majeurs et puis des saints mineurs, pourrions-nous dire. Et puis enfin, on a réservé l'usage des litanies à certaines circonstances. Enfin, on a quitté le domaine de l'oralité. Une fois que ça a été mis par écrit, que ça a été codifié, eh bien, c'est devenu pour certaines catégories de messe. Les dédicaces d'église, la vigile pascale, les ordinations. On avance un petit peu plus dans le temps, on quitte l'Irlande, et là, on va plutôt en Italie pour voir l'origine plus précisément des litanies de la Vierge. Il y a un petit flou qui existe entre une origine de type byzantine, avec les premières hymnes issues des Pères du Désert, les hymnes dites akatistes, celles qui vénéraient la Mère de Dieu. Toujours est-il qu'au XIIIe siècle, en 1291, vous savez qu'il y a la fameuse réputation, le fait que c'est réputé exact, que la maison de la Vierge a été transportée de Nazareth jusqu'au bord de l'Adriatique, à Lorette. Et donc, Lorette, ville d'Italie, est devenue un centre marial très réputé, très propice, devenu lieu de pèlerinage très très rapidement. Et à partir du XIIIe siècle, cette dévotion mariale s'est accompagnée aussi de la mise en place du rosaire, progressivement. Et puis, un petit peu plus tard, au XIXe siècle, le dogme de l'Immaculée Conception. Ce qui veut dire que toute la mystique mariale s'est accompagnée de réformes comme ça, d'affinement de la pensée spirituelle, et que les litanies ont été enrichies. En même temps qu'au XIIe, XIIIe siècle, les premières litanies mises par écrit apparaissent à Lorette, l'Europe connaît un phénomène littéraire qui est la littérature courtoise. Et donc, il y a une espèce d'atmosphère mariale qui existe partout en Europe. Et dans la littérature courtoise, le fin amour, l'amour parfait, fait que la femme incarne le but ultime de l'amour. C'est la belle qu'on vient reconquérir au retour de la croisade. C'est la belle qu'on attend. Et donc, les litanies mariales vont emprunter quelque chose de cette littérature courtoise. La poésie médiévale va s'inspirer de tout cela, à tel point qu'on va désigner Marie comme étant la nouvelle Ève. Et donc, toute une énumération va avoir lieu dans la littérature de qualité. La Vierge, c'est l'image de cette dame courtoise, c'est un modèle de perfection, un modèle de vertu, et les troubadours vont se mêler aussi à ce mouvement-là. On a des litanies mariales de Rudebeuf, par exemple. Alors, je concentre encore plus le propos sur maintenant des litanies qui font floresse, mais les seules qui m'intéressent, ce sont celles qui ont le plus de succès, ce sont les litanies de Notre-Dame de Lorette. Il y a eu un mouvement de litanie mariale en Espagne, notamment, au Portugal. Mais moi, c'est celle qui m'intéresse. Je me concentre sur celle-ci parce que ce sont celles-là qui nous sont représentées. Plusieurs sources d'inspiration à proprement parler bibliques, notamment dans l'Ancien Testament. Le Cantique des Cantiques, certaines figures du livre de la Genèse, certaines figures des psaumes, certaines figures du livre de Siracide et puis du livre de la Sagesse sont directement inspirantes pour les litanies. Et toutes ces litanies vont faire un peu comme si Marie devenait une espèce de blason. Le blason de l'Église, celui qu'on peut brandir et qui est orné de tout un apparat. Et cet apparat, il va emprunter notamment trois types de comparaisons, de métaphores. D'abord, des comparaisons empruntées au domaine de la nature. On va dire de Marie qu'elle est éclatante comme le soleil, qu'elle est belle comme la lune, qu'elle est l'étoile de mer, le jardin clos, ça se figure notamment sur le petit... Voilà, elles sont représentées dans le petit flyer que je vous ai mis, la fontaine, le cèdre, l'olivier à l'aspect brillant, le buisson de rose, le lys sans épines, la tige de Jessé fleurie, etc., etc. Première série de métaphores sur la nature. Une deuxième série de comparaisons empruntées plutôt à partir d'objets manufacturés. Le miroir de justice, le vase, vase honorable, vase admirable, là qui fait plutôt référence au sein maternel, au sein virginal, comme une sorte de réceptacle, Marie, réceptacle de Jésus. Le trône de la sagesse, c'est venu parce que les représentations de l'enfant debout sur Marie assise, et donc qui lui sert de soutiennement, de base. La nature, les objets manufacturés, et puis aussi, troisième type d'emprunt, de métaphore, tout ce qui concerne l'architecture et l'urbanisme, pourrait-on dire. Tour de David, qui évoque la solidité. Porte de la ville, porte du ciel, cité de Dieu, maison dorée. Autant de figures qui nous sont un tout petit peu familières. Alors maintenant... que les grands emprunts sont situés, comment s'organisent grosso modo les litanies. En fait, il y a Sainte Marie d'un prier pour nous, il y en a 50. Il y a 50 invocations qui sont réparties à peu près en 6 groupes. Les trois premières, c'est Seigneur prends pitié, ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. Donc ça, c'est les invocations qu'on a qui inaugurent toutes les séries litaniques. Ensuite, vous avez un premier groupe de 12 invocations avec le titre de mère. Et donc là, ça nous donne une formule un petit peu plus théologique sur comment Marie est mère du Christ, mère du Sauveur, mère de l'Église, mère admirable, mère toujours vierge, etc., etc. Un groupe de 6 invocations plutôt sur la virginité vierge. Et donc là, c'est plutôt sur la prudence, sur la foi, sur la clémence. Ensuite, 13 invocations très vétérotestamentaires de l'Ancien Testament, sur l'Arche d'Alliance, sur le trône de la sagesse, etc., etc. 4 invocations plutôt issues de la piété médiévale. Marie protectrice, alors protectrice, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est plutôt protectrice pour les navigateurs, protectrice contre la peste, protectrice contre les dangers, les épidémies, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés. Et puis, 12 invocations sur le titre de reine. Reine avec ce qui manifeste l'excellence de sa sainteté. Donc, c'est évidemment reine dans le sens biblique, savoir... pas tant quelqu'un devant qui on fait une allégeance servile, mais quelqu'un qui protège le roi. On verra ça dimanche prochain avec la fête du Christ-Roi, c'est vraiment celui qui donne sa vie. Et puis, juste un dernier mot avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous concerne ici. Il faut bien voir que, évidemment, quand on a 50 litanies, quelquefois c'est assez maladroit. Je veux dire par là que le poète, l'écrivain sacré, il fait d'évidentes répétitions. Il y a des litanies, des invocations qui ne traversent pas forcément le temps, ou en tout cas qui ont besoin d'une certaine explication, parce qu'elles sont tellement circonstanciées qu'il y a une espèce de perte de sens. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Notamment, on en a une ici, c'est Maison d'or, qui doit être de ce côté-là, voilà, sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de références. J'en ai trouvé une ou deux, mais sans grande garantie. En tout cas, ça manque de rigueur quelquefois. Ce qui est sûr, c'est que en les priant, les litanies font vraiment partie de ce qu'on appelle, au sens le plus noble du terme, de la piété populaire. Et donc, c'est à la fois un soutènement pour un enrichissement doctrinal, hein, de dire de Marie qu'elle est l'arche d'alliance. Derrière, il y a tout un contenu doctrinal, contenu poétique, un peu esthétique, mais aussi des références bibliques, patristiques et puis liturgiques. C'est à la fois un acte de foi et un acte de louange que de prier les litanies de la Vierge. La manière dont notre chapelle est organisée, en réalité, toutes les représentations qui sont là-haut ne sont pas toutes des litanies de la Vierge. Nous avons 10 représentations, mais en fait, vous en avez 3 qui sont des anges, les 2 qui sont là, et l'ange de l'espérance qui est là. Autrement dit, ces deux-là et celui-là, là, l'ange de l'espérance, ne font pas partie des litanies de la Vierge. Alors, il y a quelqu'un d'un peu féru en art sacré qui m'a dit, c'est normal que ces deux-là soient placés ici, parce que c'est un peu comme s'ils fermaient le temple, et d'ailleurs ils sont munis d'encensoirs, hein, donc comme s'ils fermaient le temple de Marie. En revanche, on ne comprend pas trop pourquoi celui-là est mis ici. Donc je ne m'avancerai pas sur ce qui est proposé. Alors, je nous donne les titulatures. Vous avez ici Marie, secours des infirmes, avec le viatique. Donc là, l'ange de l'espérance, avec le symbole de l'encre, hein, c'est issu d'une parole aux Hébreux, où on parle de l'encre de l'espérance, mais je ne m'attarderai pas dessus. Arche d'alliance, étoile du matin. Alors l'étoile n'est pas dans le tableau, mais elle est désignée par l'ange. De l'autre côté, porte du ciel, rose mystique qu'il a dans les bras, maison dorée et miroir de justice. Vous voyez que sur les 50, on n'en a pas beaucoup non plus. Mais c'est déjà pas mal. Alors, ici, mère des affligés, on dit que Marie a tout connu des douleurs. Hein. Elle a connu à la fois les larmes de la passion du Christ, mais aussi les larmes de la consolation du feu de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Marie, depuis la prédiction selon laquelle un glaive lui transpercera le cœur, jusqu'à la Pentecôte, en fait, a connu bien des affres de la vie du Christ. Et donc, du coup, elle a connu à la fois l'abomination et la consolation. Et donc, quand on dit de Marie qu'elle est le secours des infirmes, la consolatrice des affligés, ce qui correspond plus à ce tableau-là, eh bien, c'est toute le salut des malades qui est invoqué, hein, à tel point que le Concile Vatican II, dans le nouveau missel des années 60, a même dédié une messe au salut, enfin Marie salut des malades, dont la prière d'ouverture nous dit « Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Vierge Marie, d'être libéré des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. » Et donc la valeur spirituelle associée à Marie, secours des infirmes, refuge des pécheurs, salut des malades, c'est la patience. Marie prie pour les personnes affligées jusqu'à ce que vienne l'Esprit consolateur. Et aussi, d'une certaine façon, la mission. Grâce à la prière de Marie, le chrétien apprend lui aussi à devenir consolateur, donc porteur d'espérance. C'est la vertu associée. Miroir de la justice, de l'autre côté. Alors, le premier des justes dans la Bible, c'est évidemment Noé. Noé, on dit, un homme intègre, juste parmi ses contemporains et qui marche avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y en a d'autres. Il y a Zacharie et Élisabeth, il y a le centurion Corneille. Et en fait, le titre de juste nous rappelle qu'il faut voir dans Marie l'image de celle qui, dont la façon de vivre, c'est dans l'obéissance à la loi de Dieu et de grandir à l'image du Christ, de grandir dans un amour pur, un amour désintéressé, un amour de proximité avec le prochain. Et le miroir, ça reflète la pureté de l'âme. C'est à la fois la connaissance de soi, l'intégrité morale et la capacité à refléter la réalité. Je ne peux pas tricher devant mon miroir. Il y a un petit peu reflet de la conscience. Et donc, comme l'âme de Marie est totalement sainte, totalement pure, eh bien, elle reflète le soleil de justice, ce qui signifie qu'elle est dans la perfection et dans la sainteté de Dieu. Elle est le miroir sans défaut de la majesté même de Dieu. Et là, la tradition spirituelle veut qu'au miroir de justice, miroir de la justice, pour le chrétien, la valeur spirituelle, la vertu spirituelle, ce soit justement la recherche du bien. Benoît XVI le rappelle dans sa lettre encyclique « Caritas in veritate », il va dire que la justice, c'est le minimum de la charité, car on n'a encore rien donné avant d'avoir donné, ou plutôt rendu au prochain, ce qui est sien. La bonté, la justice de Dieu doit se refléter à travers les actes du chrétien. La maison dorée. Alors, assez énigmatique. Pourquoi ? Parce que, peut-être que vous le savez, il y a une maison dorée très célèbre qu'on est en train de redécouvrir d'ailleurs à Rome actuellement. C'est la fameuse maison dorée de Néron, au-dessus du Colisée, qui avait colonisé pratiquement toute une colline avec un lac, avec une espèce de forum à lui, des basiliques, enfin ce qu'on appelait des basiliques à l'époque, c'était des forums, des lieux de rencontre, pour dire, voilà. Et en fait, c'est à partir de là, de cette maison dorée qui était toute en or, que Néron avait donné l'ordre d'incendier Rome et qu'il avait contemplé le spectacle en chantant sur sa propre cithare. Et donc, quand on disait maison dorée dans le bas Moyen-Âge, c'était tout de suite en référence à une espèce de maison de l'abomination, celle de celui qui avait trucidé les chrétiens, enfin qui les avait brûlés, qui les avait condamnés à cause de l'incendie de Rome. Mais il se trouve que dans la Bible, il n'y a pas le mot maison dorée, maison en or, ça n'existe pas. On va dire de Marie qu'elle est la maison du Verbe pur. La première tradition patristique va le dire. Marie est la demeure du Verbe pur. Et donc, la pureté de l'éclat, c'est tout de suite lié au métal doré, à l'or. Et donc, c'est comme ça que la tradition, peu à peu, a effacé la maison dorée de Néron et a vu dans le mot maison dorée la Vierge. Et uniquement la Vierge. Et c'est pas un hasard si dans les litanies de la Vierge, maison dorée est tout de suite mis en rapport avec Arche d'Alliance. Pourquoi ? Parce que justement, l'Arche d'Alliance, ça on en est absolument sûr et certain, c'était Dieu qui avait donné la manière de bâtir l'Arche d'Alliance dans la Bible, dans le livre du Lévitique. Il fallait absolument que ce soit en or. Et donc, l'Arche d'Alliance, c'est le signe visible de la présence agissante de Dieu parmi les hommes. Un petit coffret, à l'intérieur duquel sont gardées les deux tables de la loi. C'est un coffret qui est mobile, on peut le porter assez facilement. C'est un coffret sur lequel le couvercle, alors je dis le couvercle parce que ce n'est pas le bon mot, mais pour expliquer ce que c'est, le propitiatoire, hein, c'est-à-dire qu'on faisait, on faisait couler le sang des animaux sacrifiés sur le propitiatoire, au-dessus, en sacrifice. Hein, et donc on disait que le sacrifice était agréé par Dieu, qu'il descendait de Dieu et que le sacrifice des animaux pardonnait les péchés. Et donc là, cette arche d'alliance était aussi source de bénédiction. Et donc très très tôt après, avec le Nouveau Testament, on a bien vu que l'arche d'alliance était la préfiguration de la Vierge Marie. Le fait de l'avoir transportée pendant X années, c'est exactement le même terme qu'on a dans la visitation. Marie qui porte Jésus et qui va voir sa cousine et Élisabeth. L'Esprit Saint qui recouvre de son ombre Marie à l'Annonciation, ben c'est la structure dorée justement, hein, cet or pur, hein, gardé par les anges qui sont aux quatre coins de l'arche et qui manifeste cette demeure très pure, cette maison dorée, arche d'alliance, qui abrite Dieu en son sein. Et puis, bien évidemment, le sang qui coule au-dessus, c'est plus le sang de Marie, mais c'est évidemment le sang du Christ lui-même, qui est lui-même la victime offerte en sacrifice. Et donc, je reviens sur un tout petit peu sur la maison dorée et l'arche d'alliance. Elles vont de pair. Les vertus spirituelles qui sont associées à ces deux invocations litaniques sont la pureté, et l'incorruptibilité. Marie est devenue l'arche incorruptible, le corps parfait, le corps inaltérable, toujours vierge, qui a abrité Jésus. Et puis, c'est aussi l'or, c'est ce qui monte vers Dieu, c'est ce qui brille et qui donne de l'éclat pour Dieu. Et donc, il y a une tradition byzantine qui voit dans la maison dorée et l'arche d'alliance les prémices de l'Assomption, hein, ce qui élève le regard vers Dieu. La rose mystérieuse que nous avons de ce côté-ci, là, c'est assez tardif. On est chez Bernard de Clairvaux, au début du XIe siècle, avec trois motifs symboliques liés à la rose. D'abord, la rose, c'est une fleur. Et une fleur, ça, dans la poésie médiévale, ça synthétise toute la beauté du monde. Et donc, quand on aime quelqu'un, on aime lui offrir des fleurs. Et donc, du coup, en nommant la Vierge par le nom d'une fleur, ben, c'est un peu comme si les chrétiens tendaient cette fleur en guise d'hommage. Et en plus de ça, la rose, donc, c'est la reine des fleurs. Donc, de même que Marie est la reine de l'univers, hein, la mère du roi des rois, ben, de même, la rose a été la première des fleurs dans son ordre. Ensuite, le parfum, la beauté de la rose la rendent sans égale. Une rose, ça apparaît discrètement dans un buisson, et puis c'est peu à peu que ça s'ouvre progressivement à la lumière, et que ça dilate un certain parfum. Et bien pareil pour la Vierge. Les débuts de la vie de la Vierge sont totalement humbles, anonymes, obscurs, mais on peut rien faire sans elle pour découvrir le Christ, qui est l'exhalaison parfaite, la beauté incarnée. Et puis, La rose a le pouvoir de porter des ronces, de pousser parmi les ronces. Et donc, Marie, elle a vécu dans le roncier de l'incrédulité, dans un monde qui a refusé son fils, hein, l'existence de son fils. Et donc, c'est un rapport aussi à la passion. Un rapport à la passion, puisque le rosier, il exprime la couronne qui est faite d'épines. Alors la vertu spirituelle liée à la rose, c'est l'amour de charité. Pourquoi ? Parce que, la mystique chrétienne va s'éloigner un petit peu de la poésie médiévale, où la rose est un idéal pur. Nous ne sommes pas dans un idéal pur, nous sommes dans un idéal incarné. Et donc, du coup, la rose, l'indication de Marie comme étant une rose, c'est vraiment celle qui a supporté tout l'amour de Dieu pour les hommes, donné Dieu aux hommes, comme une rose qui donne sa beauté et son parfum. Et donc, il faut aller jusqu'au bout dans cette offrande de soi, du meilleur de soi, pour ce qu'on aime. Marie, porte du ciel, la grande porte qui est là. Là, c'est une inspiration assez directe de la Bible, avec quand même quelques petites nuances, à savoir que on est très très tôt dans le livre de la Genèse avec Jacob qui voit dans un songe une échelle, hein, et puis des anges qui montent et qui descendent entre la terre et le ciel. Et puis à son réveil, Jacob va dire « Ah mais que ce lieu est redoutable, ça n'est rien moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. » Et cette expression va fonctionner. Enfin, Jésus lui-même va dire « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Donc la porte du ciel, le Fils de l'homme serait plutôt le Christ. Mais là, on fonctionne, comme bien souvent dans les litanies, par métonymie. C'est-à-dire que c'est le contenant pour le contenu, la cause pour la raison, etc. Et donc, si Jésus est dit « porte du ciel », à plus forte raison, Marie l'est aussi. Un petit peu le raisonnement qu'il y a derrière. Et donc, la porte du ciel, la vertu spirituelle qui est liée à cette invocation, là, c'est plutôt l'humilité. Je nous cite une très jolie phrase de Saint Jean-Marie Vianney. On n'entre pas dans une maison sans parler au portier. Eh bien, Marie, salut là, elle est la portière du ciel. Il y a aussi dans notre liturgie, un thème retenu, une messe votive de Marie, porte du ciel. La prière d'ouverture nous dit « Nous te saluons, Vierge, en qui repose la parole. Tu es la porte du paradis. Quand tu donnes Dieu au monde, tu nous ouvres le ciel. » Ou dans la préface, vraiment, il est juste et bon, etc., etc. « Elle est la Vierge Mère, dont la porte orientale du temple était la figure. C'est par elle que le Seigneur est passé. » Pour lui seul, elle s'est ouverte et ensuite elle est demeurée close. Étoile du matin. Ah, c'est une jolie histoire. Étoile du matin. Là, on est au 4e siècle avec Saint Jérôme. Saint Jérôme, grand traducteur de la Bible, vous le connaissez. Un homme érudit qui a donc traduit, on lui doit la Vulgate, la Bible en latin. Et il ne s'est pas contenté de traduire la Bible, il y avait d'autres écrits qui existaient, il y en avait notamment un qui s'appelait l'Onomasticon, O-N-O-M-A-S-T-I-C-A-O-N, l'Onomasticon, voilà ça. Et ça a été écrit avant lui, une génération avant, par Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, c'est le premier enquêteur d'une espèce de Bible sur le terrain, c'est-à-dire qu'il recherchait les premiers signes un peu archéologiques, historiques, concrets, du peuple de la promesse, du passage du Christ sur terre, de la vie des premières communautés. Donc, voilà. Et donc, pour ne pas qu'on en perde le souvenir, Eusèbe de Césarée vraiment colligé bien des éléments pour inscrire l'histoire dans des recueils. Et, bon, je vous la fais courte, mais c'est un peu comme s'il avait publié le premier guide de routard de la Palestine, quoi. Il a publié cette Onomasticon, qui est un recueil de lieux de pèlerinage où on doit aller sur les lieux saints. Jérôme arrive une génération après, donc au début du 4e siècle, et il est fasciné par l'écrit de Eusèbe de Césarée. Il va en entreprendre la traduction. Bon. Mais autant Eusèbe avait été assez fidèle à l'hébreu, hein, et Mariam, donc le terme de Marie, mais il va faire quelques petites fautes, et ce qui est un prénom, Mariam, il va le scinder, Mariam, hein, et ça va devenir goutte de la mer. Voilà. On ne va plus comprendre le prénom en un seul mot, on va le prendre en deux mots, Mariam devient Mariam, goutte de la mer. Et Jérôme va dire, oui, très bien, il va traduire ça par Stila Maris. Stila, c'est la goutte, Maris, la mer. Les générations passent, et évidemment, il y a des maladresses de copistes qui viennent s'ajouter là-dessus. Et on ne parle plus de Stila Maris, mais de Stella Maris, d'où l'étoile de mer. Mais la tradition retient les deux. C'est-à-dire que nous, on a plutôt, par Bernard de Clairvaux, plutôt retenu Stella Maris, mais Stila Maris existe aussi dans d'autres litanies, et qui en fait viennent de là. Et en fait, cette maladresse a quand même une signification assez profonde, parce que, on le voit très bien, enfin, le chant qui fait Florès actuellement, regarde l'étoile, invoque Marie, etc., ça vient de là. C'est plutôt Marie, refuge du pécheur, Marie, guide solide dans la conduite. Et donc la vertu spirituelle qui est liée à ce Stella Maris, c'est la patience, c'est l'espérance. C'est l'attente vigilante, hein, tendue pour ne pas être, simplement concentré sur ce qui nous ballotte, sur ce qui nous malmène. Jean-Paul II, vous le savez, avait une très grande dévotion pour la Vierge Marie. Il a écrit « Comme l'étoile du matin, et en même temps que l'aurore précède le lever du soleil, de même Marie, dès sa conception immaculée, a précédé la venue du Sauveur, le lever du soleil de justice dans l'histoire du genre humain. » Et l'étoile de mer, la Stella Maris, c'est celle qui mène à bon port malgré les tempêtes, c'est l'étoile de sainteté qui nous donne de garder le cap malgré nos infidélités, c'est elle qui donne la lumière de vérité lorsque tout paraît sombre. Alors, en modeste conclusion de ce rapide parcours, mais je crois que j'ai fait honneur à toutes les représentations qui sont ici, en fait, il m'a plu de regarder un petit peu ce que c'est que l'actualité des litanies. Et assez curieusement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le savais pas avant il y a une dizaine de jours, je pensais que les litanies étaient figées une fois pour toutes, et en réalité, pas du tout. Non seulement c'est une espèce de cadre, et donc à partir des litanies de Lorette, vous avez des communautés chrétiennes qui composent leur propre litanie, mais les papes eux-mêmes se permettent de rajouter des invocations. En 1854, donc Pie IX a autorisé l'invocation « Reine conçue sans le péché originel », parce que justement, il venait de faire proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. En novembre 1981, Jean-Paul II, donc très grand pape et qui était vraiment intéressé par le sens chrétien de l'amour, et donc à la suite de l'exhortation apostolique « Familiaris Consortio », il a mis une invocation supplémentaire « Marie, mère de la famille ». Et puis tout dernièrement, ça m'était complètement passé au-dessus de la mémoire immédiate, c'est qu'en juin 2020, le pape François a décidé d'ajouter trois vocables. Il a mis « Mère de miséricorde », donc ça je pense que c'était après le jubilé de la miséricorde, « Mère de l'espérance » et « Réconfort des migrants ». C'est ce que j'ignorais. Et donc du coup, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que toutes les époques, en fait, peuvent ajouter de façon actuelle les litanies, parce que voilà, c'est elle qui est toujours un recours, Marie toujours un recours plein d'affection, de confiance pour guider le peuple de Dieu. Écoutez, je vous remercie, et donc je cède la parole à Michel.
Bien, maintenant, après tout ce que nous a dit le Père Laurent, je ne sais pas où il a trouvé tout ça, mais c'est incroyable. Merci. Nous allons réfléchir ensemble sur un texte du pape Paul VI qui a institué Marie, mère de l'Église. En 1964, l'Église est en plein concile œcuménique, appelé Concile Vatican II. Ce dernier a débuté le 11 octobre 1962 et plusieurs documents conciliaires sont régulièrement promulgués jusqu'en décembre 1965. Le plus important d'entre eux est certainement la Constitution sur l'Église intitulée Lumen Gentium, Lumière des Nations. Lors de la préparation de ce texte, les pères conciliaires discutent de la place de la Vierge Marie dans le plan du salut voulu par Dieu. Certains participants veulent notamment qu'un document du Concile soit exclusivement dédié à la Mère de Dieu. Mais la proposition n'est finalement pas retenue, remplacée par cette affirmation « Marie appartient au peuple de Dieu » dont elle est le membre le plus noble, le plus éminent et le plus saint. Voilà pourquoi la décision est finalement prise de ne pas traiter de la place de la Vierge Marie, dans un document spécifique, mais bel et bien plutôt au terme même de Lumen Gentium, comme un point d'orgue théologique et spirituel. C'est donc ce qui est fait, puisque le chapitre 8 de la Constitution sur l'Église est précisément intitulé « La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église ». Considéré par bien des experts comme étant le texte marial le plus profond, le plus équilibré, le plus complet qui ait jamais été écrit sur la Vierge Marie. Il est de coutume qu'un document conciliaire, constitution, décret, acte, déclaration, soit définitivement approuvé une fois promulgué par le pape. Le 21 novembre 1964 a donc lieu la promulgation de Lumen Gentium. Et à cette occasion, Paul VI crée un léger moment de surprise parmi ses auditeurs. À peine prononce-t-il les mots suivants, c'est donc à la gloire de la Bienheureuse Vierge et à notre réconfort que nous proclamons Marie très sainte, Mère de l'Église, que les 2400 évêques et observateurs conciliaires se lèvent d'un bond et applaudissent avec enthousiasme durant de nombreuses minutes. Voici donc un extrait du discours prononcé par le pape Paul VI en conclusion de la troisième session du Concile Vatican II. Nous proclamons la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs. Nous l'appelons Mère très aimante et nous voulons que, dorénavant, avec ce titre si doux, la Vierge soit encore davantage honorée et invoquée par tout le peuple chrétien. Il s'agit d'un titre qui n'est pas nouveau pour la piété des chrétiens. Ce titre, en vérité, appartient à l'authentique substance de la dévotion à Marie, trouvant sa justification dans la dignité même de la Mère du Verbe incarné. De même que la maternité divine est le fondement de la relation spéciale de Marie avec le Christ, de même, elle constitue le fondement principal des rapports entre Marie et l'Église, car elle est mère de celui qui s'est uni en tant que chef, son corps mystique qui est l'Église. Marie, donc, en tant que mère du Christ, et mère aussi de tous les pasteurs et fidèles, c'est-à-dire de l'Église. L'âme pleine de confiance, nous levons les yeux vers elle, malgré notre indignité. Elle, qui nous a donné avec Jésus la source de la grâce, ne manquera pas de secourir l'Église. Notre confiance est renforcée lorsque nous considérons les liens très étroits qui unissent notre Mère du Ciel au genre humain. Fille d'Adam comme nous, elle est cependant la créature préservée du péché originel à cause des mérites du Sauveur et qui, au privilège qu'elle a obtenu, joint la vertu personnelle d'une foi totale et exemplaire. Durant sa vie terrestre, elle a réalisé la figure parfaite de disciple du Christ. C'est pourquoi, en elle, toute l'Église atteint la plus authentique forme de l'imitation parfaite du Christ. Donc maintenant, nous allons passer à la prière finale. Alors juste un mot avant de... Les psaumes du commun des fêtes de la Vierge Marie dans la liturgie des heures, dont fait partie le psaume 147, évoquent quelques aspects du mystère de la Vierge Marie, en fonction du rôle qu'elle a joué dans l'incarnation du Fils de Dieu. Les psaumes ne font pas directement référence à la Vierge, mais ils désignent la plupart du temps soit la ville de Jérusalem, soit le temple. C'est en ce sens que, Mère du Verbe incarné, que nous pouvons prier le psaume 147 qui invite Jérusalem à reconnaître la gloire de Dieu à travers les œuvres de sa parole. Et ce sera la même chose pour le livre de l'Apocalypse. En fait, on dit que, on voit cette phrase représente, on dit « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. » Mais en fait, on parle d'Israël et des 12 tribus. Voilà. Mais on a l'impression que c'est la Vierge. Vous allez chanter ?
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Allez dans la paix du Christ.
Amen.